Bonjour à tous et à toutes. C'est un privilège pour moi de vous apporter encore la parole aujourd'hui. Pourtant, vous allez me dire, il y a quelque chose de bizarre. On dirait qu'il manque quelque chose. Je suis dans le noir, je suis dans les ténèbres et il manque la lumière. Cette lumière est importante. Pour ceux qui ont déjà fait des randonnées de nuit, petit clin d'œil aux Roy Rangers, si vous n'avez pas pris votre lampe de poche, ou si, pire, vous n'avez pas mis de pile dans votre lampe de poche, la marche risque d'être difficile. Et encore plus si le chemin est escarpé. Même si, de nos jours, il nous suffit de pousser sur un interrupteur pour obtenir de la lumière. Cela n'a pas toujours été le cas. Du temps de Jésus, il fallait souvent maintenir la flamme allumée de sa lampe pour ne pas être dans le noir. La lampe, la lumière sont des images qui sont utilisées dans la Bible. Et c'est ce qu'on peut lire dans le psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. On va prier. Oui Seigneur, combien ta parole est importante, Seigneur, combien elle nous montre la direction que nous voulons prendre, Seigneur, et on voudrait que tu nous montres, Seigneur, quelle direction nous devons prendre encore aujourd'hui, Seigneur. On veut suivre ta lumière, Seigneur, on veut suivre ta parole. On veut être sur ce sentier, Seigneur, qui mène à toi. Amen. Le texte que nous allons voir aujourd'hui se trouve dans Matthieu 25. Matthieu 25, nous lirons les versets 1 à 13. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui prirent leur lampe pour aller à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles, mais les sages prirent avec elles leur lampe et de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent. Et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allèrent en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui au festin de noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, en vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Alors on va d'abord se mettre dans le contexte, le chapitre précédent, donc le chapitre 24. Les disciples interrogent Jésus sur la fin des temps. Dans ce chapitre, donc 24, on va traiter de la fin des temps, des signes annonciateurs de cette fin des temps et du retour de Jésus et des tribulations qui vont y être associés. C'est dans ce contexte que Jésus raconte la parabole que nous venons de lire. Si je devais donner un titre à cette prédication, je dirais « Es-tu prêt pour le retour du roi ?» Mais en préambule, je voudrais juste vous inviter d'abord à lire ce chapitre 24, même s'il est un peu difficile et il mériterait une bonne étude biblique dessus. On traite des termes d'eschatologie assez compliqués. de retour de Jésus. Mais là où moi je voudrais que vous fassiez attention, c'est que certains, et je l'ai déjà entendu, essayent de prédire, de trouver quand Jésus va revenir, quel est le jour où Jésus va revenir, ou quelle est l'année où Jésus va revenir. Je suis tombé sur Facebook ici dernièrement, plusieurs vidéos de personnes soi-disant chrétiennes, soi-disant évangéliques, qui essayent de prédire ce retour de Jésus. Mais qu'est-ce qu'on voit dans ce chapitre 24, au verset 36? Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce serait se prendre pour qui nous ne sommes pas, d'essayer de découvrir la date du retour de Jésus. De plus, connaissant notre nature humaine, nous serions tentés de vivre notre vie un peu comme bon nous semble, et lorsque cette date fatidique va arriver, d'essayer de se mettre en règle pour être prêt. Mais ce n'est pas comme ça que cela se passe. Donc, nous devons être prêts en tout temps. Et c'est ce que Jésus veut enseigner à ses disciples dans cette parabole. Ne voyons pas ce passage comme un simple avertissement. Car il se trouve dans un ensemble. On l'a déjà dit, le passage précédent nous parle de retour, mais aussi des tribulations. Ces temps seront très difficiles pour les chrétiens. Voyons aussi ce passage comme un précieux soutien dans les temps difficiles. Et c'est ce texte que j'avais à cœur de vous partager aujourd'hui sur le fait d'être prêt pour le retour du roi. Mais voyons le chapitre, le verset 1 de notre texte de Matthieu 25. « Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui prirent leur lampe pour aller à la rencontre de l'époux. » Les mariages de l'époque se déroulaient en 3 temps. D'abord, les fiançailles. Ensuite, la cérémonie des vœux qui avait lieu chez les parents de l'épouse. Troisièmement, le festin de noces chez l'époux. Et c'est entre ces deux événements, entre ces deux temps que nous sommes, la cérémonie est finie chez les parents de l'épouse et les mariés, les nouveaux mariés se dirigent vers l'époux pour de grandes réjouissances. Lors de cette cérémonie, les vierges ou les jeunes filles du village étaient autorisées à participer au banquet, probablement des amis de l'époux. Je ne l'ai pas encore dit, mais Jésus est souvent comparé dans le texte, dans la Bible, à l'époux. Jésus est l'époux de l'Église. Donc, dans ce cortège, vers la maison de l'époux, pour un grand festin sur la route, 10 jeunes filles éclairent le chemin. Cependant, nous voyons qu'il y a deux types de jeunes filles. Versets 2 à 4. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe, de l'huile dans des vases. En apparence, pas de distinction entre les sages et les folles, mais ces dernières avaient oublié l'essentiel. Leur stupidité est inexcusable. Qui prend une lampe sans huile? Ou qui prend une lampe de poche sans pile? Pourtant, cette description pourrait être bien être celle d'une multitude de gens aujourd'hui qui se réclament de Jésus-Christ. Cette parabole révèle la grande différence qu'il existe entre ceux qui professent Christ, c'est-à-dire qui disent de leur bouche connaître Jésus, et ceux qui possèdent le Christ et qui sont sa possession, ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie, ceux qui sont ses enfants. Quelle folie de vouloir jouer à être chrétien sans connaître la réalité de la vie en Christ. Verset 5. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Nous pouvons donc dire que les 10 jeunes filles qui se disent chrétiennes, nous voyons aussi qu'elles sont toutes les 10, elles se sont toutes les 10 assoupies et endormies, car l'époux tarde. Cela nous rappelle un événement qui va se passer un peu plus loin dans les Écritures. Lorsque Jésus est dans le jardin de Gethsémané, un peu avant son arrestation, un peu avant d'être crucifié, les disciples sont aussi avec lui dans ce jardin, mais ils vont aussi s'endormir. Et cela nous montre à quel point nous sommes faibles par rapport à Dieu. Nous voyons aussi que l'époux tarde à arriver. Vous êtes-vous déjà posé la question? Pourquoi Jésus tarde à son retour? Pourquoi il tarde à venir nous chercher? Et cette réponse, nous la trouvons dans 2 Pierre 3,9. 2 Pierre 3,9 dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous. Il ne veut qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. » Mais qu'est-ce que ça peut bien dire, ça, repentance? La repentance est un changement radical par rapport à notre attitude face au péché. C'est vraiment un demi-tour complet. On reconnaît qu'on est pécheur. On reconnaît qu'on a besoin de Christ. On reconnaît notre dépendance totale à lui. On reconnaît Jésus comme sauveur, mais surtout comme Seigneur de notre vie. C'est ça, se repentir, c'est changer. Mais voilà, c'est le branle-bas de combat. Verset 6, au milieu de la nuit, il y a un cri, « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Pourtant, il y a un problème. Certaines n'ont plus d'huile. Verset 8, les folles diront aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Alors, je ne l'ai pas encore dit non plus, mais l'huile dans cette parabole représente le Saint-Esprit que nous recevons lors de notre conversion et sans lequel on ne peut ni appartenir à Dieu ni lui plaire. C'est ce que Romains 8, versets 8 et 9 disent. Mais 8, c'est 8 et 9. Or, ceux qui étaient sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sur celle de l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, les vierges, les jeunes filles vierges, folles, n'ont pas d'huile lorsqu'au milieu de la nuit, l'époux arrive. Et ce verset commenté dans la Bible a noté, et voilà ce qui y est écrit. L'impossibilité où sont les vierges sages de donner aux folles de leur huile est dès lors très claire. Car nul homme ne saurait communiquer à un autre les grâces de la foi. L'expérience personnelle d'une vie de sainteté et d'amour, qui sont de nature incommunicable, doivent être acquises par chacun et pour son propre compte. Dieu seul est la source de ce Dieu seul est la source, et ce n'est qu'en nous approchant individuellement de lui que que nous pouvons l'acquérir. Fin de citation. Pour résumer, il n'y a qu'un seul chemin pour aller à Dieu. Et c'est Jésus, mort pour nos péchés et ressuscité 3 jours plus tard. Lui, il a vaincu la mort. Lui qui a vaincu la mort peut aussi vaincre le péché. Et ce chemin, c'est personnellement qu'il nous faut l'emprunter. Personne ne peut le faire pour vous. Et si Jésus, l'époux, retarde son retour, c'est pour que toi, qui n'as pas encore pris ce chemin de la repentance, tu puisses le prendre. Oui, toi, qui es derrière ta caméra, derrière ton écran aujourd'hui. Versets 10 et 11. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui au festin de noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ». Les sages sont maintenant en sécurité. Elles peuvent jouir du festin et de la fête, mais les folles revinrent. Et là, c'est la stupeur. Les portes sont fermées. Et elles ne s'ouvriront plus. Mais pour nous, aujourd'hui, les portes sont toujours ouvertes. Il est encore temps de se repentir, de faire demi-tour, de changer. 2 Corinthiens 6, 2 dira, c'est maintenant le temps vraiment favorable, car maintenant, c'est le jour du salut. Qu'est-ce que le jour du salut? C'est le jour où on a reconnu notre péché. C'est le jour où on s'est repenti, où on a fait demi-tour, où on a changé d'attitude. C'est le jour où on a reçu le pardon de nos péchés par le sacrifice de Jésus sur la croix. C'est maintenant, c'est aujourd'hui le jour du salut, car un jour il sera trop tard. Jésus peut se permettre de retarder son retour. Il est Dieu. Demain, il sera peut-être trop tard et des multitudes seront perdues pour avoir remis la question de leur salut à plus tard. Regardez ce qui arrive au verset 12. Mais il répondit, « En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. » Ce sont des paroles, ce sont les paroles les plus effroyables que l'on puisse entendre de la bouche de Jésus. Ces paroles, il les a déjà dit un petit peu plus tôt dans le sermon sur la montagne, dans Matthieu 7, les versets 21 à 23. Quiconque me dit « Seigneur, Seigneur » n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux. Hein? Le royaume des cieux, comme on a eu au début de cette parabole dans notre texte. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom que nous avons fait des miracles? » Alors on peut faire beaucoup de choses dans le nom de Jésus. Mais regardez ce qu'il dit au verset 23, « Alors je le déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Encore des paroles effroyables, des paroles qu'on n'a pas envie d'entendre de la bouche de Jésus. Alors que faut-il que nous fassions? Il nous faut être prêts. C'est ce que nous dit le verset 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Si je reviens un peu plus tôt, au chapitre 24, le verset 42, il est écrit « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Au verset 44, « C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. » Alors, êtes-vous prêts pour le retour de Jésus? Êtes-vous prêt pour le retour de l'époux? L'histoire pourrait ne pas s'arrêter là. La parabole suivante, qui est en lien aussi avec le texte que nous avons vu avant, est la parabole des talents. Cette parabole, elle nous invite à nous mettre à l'œuvre, à travailler pour Christ. On a reçu des capacités et il nous faut les mettre au service de notre Sauveur et Seigneur. Pour conclure, je voudrais vous lire un texte dans l'Apocalypse 21, un texte fantastique qui nous fait nous rendre compte de ce qui va se passer quand Jésus va revenir. On est souvent focalisé sur le temps présent. Et voici un aperçu de ce qui nous attend si nous avons décidé de suivre Christ. C'est l'apôtre Jean qui a reçu ces paroles. Cette vision des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est préparé pour son époux. Déjà entendu. J'entendis du trône une voix forte qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Dieu lui-même sera avec nous. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Celui qui était assis sur son trône dit: Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: Écris, car ces paroles sont certaines et vraies. Et il me dit: C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai la source de l'eau de la vie gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu. Il sera mon fils. Quel texte fantastique que nous pouvons méditer. Comment on pourrait arriver à refuser ça? On va prier. Merci Seigneur, car ta parole est certaine et vraie. Merci, car nous pouvons avoir la certitude d'être un jour près de toi. Aide-nous à être prêts pour ton retour, que nous puissions avoir nos lampes allumées lorsque tu reviendras, que nous puissions être remplis de ton esprit. Merci, car tu retardes encore ton retour aujourd'hui. Merci, car les portes de ton royaume sont encore ouvertes aujourd'hui, pour tous ceux qui se repentent. Aide-nous à tenir ferme, à tenir debout, même si les temps deviennent difficiles. Et c'est au nom de ton précieux Fils que nous t'avons prié. Amen. Merci et bonne semaine à tous.